Adieu. Article. Émile Zola. Jeudi 22 septembre 1881. Le Figaro. Préambule. Comme on le voit par le titre de l'article qui suit, Monsieur Émile Zola termine aujourd'hui la campagne d'une année qu'il a bien voulu entreprendre au Figaro. Mais s'il cesse de nous prêter sa collaboration régulière, il ne nous quitte pas définitivement. Nous espérons bien qu'il nous donnera de temps à autre quelques études littéraires comme celles qu'il a plusieurs fois publiées dans ce journal et qui ont toujours été si remarquées. Adieu. Me voici au terme. J'ai tenu la promesse que je m'étais faite de batailler ici pendant une année. Et j'estime à cette heure que cela suffit. Quand j'ai accepté l'hospitalité si large du Figaro, ma pensée a été d'y venir défendre à la tribune la plus retentissante de la presse, devant le grand public, quelques idées bien simples et peu nombreuses qui me tenaient au cœur. Mon sentiment est que le triomphe d'une année unique demande la vie d'un homme. Mais il faut compter avec les exigences légitimes d'un journal et pour le succès même de ma cause, je préfère ne pas me répéter, ayant dit en somme tout ce que j'avais à dire. Ma position était d'autant plus délicate que j'apportais à cette place presque sur toute chose des opinions contraires à celles de mes collaborateurs, ni en religion, ni en philosophie, ni en littérature, ni en politique, nous n'avions les mêmes façons de voir. J'ai fait mes efforts pour ne blesser personne, et je suis heureux d'arriver au bout de ma tâche sans avoir aucun écart de plume à regretter. Je puis bien avouer maintenant que je me défiais plus encore de moi que des autres, car ce n'était pas une petite besogne que de tenir la campagne au milieu de tant de susceptibilités et avec ma légende d'écrivain malpropre. Heureusement, j'ai trouvé une aide puissante dans la bienveillance des lecteurs et des directeurs de ce journal. Donc, tout finit bien et j'en suis ravie. Il me suffit, je le répète, que le terrible naturalisme, cette pourriture des chroniqueurs et des critiques, ait montré ici des mains blanches, le souci de la dignité des lettres, l'amour du bon sens et de la vérité. J'ai simplement voulu mettre dans le Figaro les pièces du procès. Voilà comme nous sommes et voilà comme sont nos adversaires. Qu'on nous juge. En politique, j'ai dit toute ma haine de la médiocrité bruyante, des ambitions exaspérées qui se satisfont au détriment de la tranquillité nationale. On m'a reproché d'y avoir mis de la violence. Suis-je réellement allé trop loin? Les lecteurs ont-ils pu se méprendre sur mes véritables sentiments? La République n'a jamais été en cause dans mes discussions. Je la crois le seul gouvernement juste et possible. Ce qui a toujours soulevé mon cœur, c'est la bassesse et la bêtise des hommes. Je ne suis pas un politique. Je n'ai pas de parti à ménager. Je puis dire nettement leurs faits aux petits hommes qui passent. Et si l'on m'accuse de frapper sur la République en frappant sur les gens qui la salissent ou qui la mangent, je répondrai qu'elle se portera mieux. Lorsque chaque matin, elle se débarbouillera et se donnera un coup de peigne. Quand on ambitionne le pouvoir, on cache les ulcères et les goitres des créatures dont on a besoin. Mais quand on vit solitaire et libre, pourquoi accepterait-on ces malades et ces infirmes? C'est travailler à la santé du pays que de vouloir les supprimer. Certes, L'évolution démocratique s'impose et il serait fou de prétendre arrêter l'histoire. Nous subissons des catastrophes fatales et nous ne pouvons qu'exprimer un regret, celui de n'être pas né dans un siècle plus stable, à une de ces heures d'équilibre, lorsqu'une société s'est fixée pour un temps dans une formule gouvernementale. Mais si notre société s'est remise en marche, si nous devons accepter les casse-coups de la route, est-ce une raison pour que, dans la bousculade, nous supportions en plus les vexations des imbéciles et des gredins qui entendent s'engraisser des malheurs publics? Ma colère est là, dans le pullulement de ces parasites, dans le vacarme assourdissant qu'ils déchaînent, dans ce spectacle honteux d'un grand peuple mangé par des hommes sans talent aucun, ayant à satisfaire la terrible faim de leur ambition, toujours déçue. Peut-être, dans tout déluge social, le flot doit-il apporter cette écume? Il faut un ferment pour détruire les vieux mondes. L'indignation ne vous en prend pas moins aux entrailles. On doute. On voudrait que le génie seul fût l'agent des siècles futurs. Et voilà pourquoi j'ai réclamé si hautement la priorité des lettres. Elles seules règnent éternellement. Elles sont l'absolu, tandis que la politique est le relatif. Dans nos temps troublés, les hommes politiques prennent, grâce à l'effarement de la nation, une importance considérable et malsaine qu'il faut combattre. Ces pantins d'une heure, ces instruments presque toujours inconscients d'un résultat qu'ils n'ont pas prévu, doivent être ramenés à leur taille, si l'on ne veut pas que le pays se détraque devant leur parade. Non, ils ne sont pas tout. Non, ils ne tiennent pas l'époque, car l'époque est aux savants et aux écrivains. Tel est le cri que je voudrais faire continuellement entendre au-dessus de la politique aérie actuelle. Votre tapage tombera, nos œuvres resteront. Vous n'êtes rien, nous sommes tout. Quand bien même je serai le seul à le crier, je le crierai encore et toujours, sans peur de le crier trop fort, certain de ma bonne besogne et de votre néant final. Par exemple, on s'est étonné de mes sévérités sur M. Rank. Je l'ai pris justement parce qu'il incarne ce type de l'homme politique, donné pendant 20 années comme un gaillard supérieur et allant quand même d'avortement en avortement. Romancier, il est médiocre. Journaliste, il est quelconque. Nous comptons 2 ou 3 douzaines de publicistes qui le valent. Administrateur, homme politique, il n'a rien fait. Je ne dis pas qu'il soit complètement un sot, car s'il a réellement quelques talents, son cas devient plus triste encore. Et c'est là, un de vos hommes remarquables? Eh bien, si Monsieur Gambetta n'était pas derrière lui, on ne lirait pas ses articles entre les lignes desquelles on cherche seulement la pensée du maître. Pas plus qu'on ne l'aurait élu dans le 9e arrondissement où il a joué le rôle de créature nécessaire. J'ignore s'il garde quelque personnalité dans un coin de son crâne. Mais actuellement, il est un reflet et il n'existe qu'à ce titre. D'ailleurs, aujourd'hui que M. Rank est député, j'espère qu'il va bien vouloir être enfin l'homme hors ligne annoncé depuis si longtemps par ses amis. Nous n'exigerions point du génie de sa part si toutes les trompettes du parti ne nous en avaient promis en son nom. Il aurait tort de se retenir. Une fois de plus, il finirait par nous laisser croire que la politique est une marâtre qui étouffe ses enfants les mieux bâtis. Prenez M. Gambetta lui-même. Voilà certains triomphes, une apothéose. La politique a saisi cet homme et l'a mis au sommet. Il emplit la France de son tapage. N'importe, s'il reste intelligent, il se méfiera. Son journal, La République française, le présentait, je crois, ces jours-ci, pour exprimer sa popularité comme une sorte d'idole dans laquelle le pays incarnait les réformes heureuses, le bon sens et le courage d'un gouvernement idéal. Cette image est fort juste, mais elle reste inquiétante pour l'idole. On raconte l'histoire de ces paysans qui, las de réclamer de la pluie à leur sein, finirent par le jeter à la rivière avec une pierre au cou. Que fera la nation le jour où elle s'apercevra que M. Gambetta ne commande pas aux éléments une idole? C'est bien cela, mais une idole de bois sous la dorure, n'ayant ni les connaissances, ni le pouvoir, ni le génie qu'on lui prête. Actuellement, les créatures de M. Gambetta lui donnent de la politique scientifique par la figure. Rien de mieux. Il est fâcheux seulement que cette politique scientifique vienne après l'échec de Sharon. M. Gambetta opère à cette heure une évolution fatale nécessitée par des questions d'ambition personnelle et non déterminée par des idées solides arrêtées d'avance. Les faits ont, malgré lui, hâté l'expérience qu'il voulait reculer encore. Nous allons donc assister à cette expérience et c'est alors seulement qu'il faudra juger M. Gambetta, puisque, jusqu'ici, par ce mirage qui prête aux politiciens le génie qu'ils n'ont pas, la nation a vu uniquement en lui ses besoins et ses espoirs. L'heure est venue d'être le grand homme annoncé, heure terrible où généralement tout s'effondre, dans le terrain détestable de la politique. Oui, les triomphateurs eux-mêmes y culbutent contre un gravier. Seules les sciences et les lettres sont des certitudes. Ont devant elles le temps et l'espace. S'il faut qu'un homme sans cesse répète cette vérité, j'ai pris ce rôle et je ne me lasserai pas. En littérature, j'ai insisté sur cette grande évolution naturaliste qui, partie de la science au siècle dernier, a transformé dans le nôtre l'histoire, la critique, le roman, le théâtre. Le travail superbe de notre époque est là, tout entier. Chaque nouvelle société apporte une littérature nouvelle. Et notre société démocratique a déterminé ce mouvement qui commence à Rousseau pour passer par Balzac et pour aboutir à nos œuvres positivistes et expérimentale d'aujourd'hui. Il faut s'entendre sur l'idée de progrès dans les lettres. Le génie humain pris en lui-même, l'individualité de l'artiste ne progresse évidemment pas à travers les âges. Homère, au début du monde, a un génie égal à celui de Shakespeare. On ne peut cultiver le cerveau humain pour y agrandir la puissance de la force créatrice. Ou du moins, aucun fait ne nous prouve que nous sommes aujourd'hui plus capables de chefs-d'œuvre que dans l'Antiquité grecque et latine. Mais ce qui progresse à coup sûr, ce sont les moyens matériels de l'expression et les connaissances exactes sur l'homme et la nature. Ainsi, voyez en musique, l'exemple y est frappant, décisif. Lully, Rameau et les autres avaient sans doute autant de génie que Beethoven, Meyerbeer et nos grands musiciens contemporains. Pourquoi donc leurs œuvres nous paraissent-elles vides aujourd'hui, enfantines, simplement curieuses au point de vue archaïque? C'est qu'il y a en musique un côté technique, des formules absolument scientifiques qui ont progressé d'une façon considérable. Le génie musical ne s'est pas élargi sans doute, mais la science a mis à la disposition du génie musical des moyens d'expression de plus en plus puissants qui lui ont permis de développer les œuvres avec une largeur incomparable. À ce point de vue, rien n'est plus instructif que l'histoire de la musique. On y voit, pas à pas et en deux siècles à peine, le progrès que la science peut apporter dans un art. L'orchestration, surtout, a pris un développement énorme, depuis les quelques violons de Lully jusqu'aux instruments sans nombre de Wagner. Je sais que, dans les autres arts, la peinture par exemple, nos connaissances nouvelles ne paraissent pas avoir déterminé de progrès. Mais si nos peintres prenaient la peine d'être des chimistes et s'ils ne s'en remettaient pas à des industriels pour la préparation des couleurs, qui sait s'il ne trouverait pas des effets puissants dans un emploi raisonné des matières employées. D'ailleurs, Pour la peinture, à côté du progrès des moyens d'expression, il y en a un autre plus important, le progrès de l'esprit d'analyse, la vue plus nette et plus humaine du modèle, cette formule naturaliste qui a transformé notre école et qui en fera sa grandeur prochaine. Eh bien, en littérature, la situation est aujourd'hui la même. Peu importe sans doute que nos plumes et notre encre soient meilleures qu'autrefois. Notre langue, d'autre part, n'est pas un instrument plus commode. Le dictionnaire s'est seulement enrichi, donnant de la souplesse et de l'éclat au style. Mais ce qui a progressé réellement, ce qui nous a apporté une formule nouvelle et sans cesse élargie, c'est l'analyse exacte des êtres et des choses. C'est la méthode scientifique appliquée à nos études littéraires. Si la nature est notre domaine, on doit comprendre quelle solidité doivent avoir nos œuvres le jour où la science nous livre cette nature sans voile, avec son mécanisme. Nous tenons les fils de la vie. Nous pouvons reprendre tous les sujets antiques pour les traiter à nouveau, d'après les documents indiscutables de l'observation et de l'expérience. Voilà la formule naturaliste, apportée par l'évolution sociale de notre siècle. En tant que formule, elle est à coup sûr un progrès sur la formule classique et la formule romantique, auxquelles elle succède logiquement. Je crois qu'à génie égal, un Homère ou un Shakespeare qui naîtrait aujourd'hui y trouverait un cadre plus vaste et plus solide, et qu'il laisserait des œuvres plus grandes. En tout cas, elles seraient plus vraies, elles en diraient davantage sur le monde et sur l'homme. Littérairement, j'ai donc tâché de dégager cette formule naturaliste et de montrer avec quelle force elle s'impose tout en faisant la part de la personnalité chez l'écrivain. Ma seule tristesse est d'avoir rencontré la haute figure de Victor Hugo sur ma route, sans pouvoir mentir, comme tant d'autres. La logique même de ma campagne me forçait à parler, à dire de quel tas de décombres la cathédrale romantique embarrasse déjà le sol. J'ai dû frapper l'ennemi à la tête. Quand tout le monde conviendra à voix haute qu'il y a uniquement un admirable poète lyrique chez Victor Hugo, quand on cessera de vouloir lui donner le siècle entier comme philosophe et comme penseur, le naturalisme passera triomphant. Une nouvelle période sera publiquement ouverte. C'est ce que j'ai voulu constater, sans grand espoir, d'ailleurs, de hâter les temps. Tels sont mes adieux, mais au moment de remettre mon grand sabre au fourreau, je suis pris du regret de la bataille, malgré les lassitudes et les dégoûts qu'elle m'a souvent apportés. Depuis plus de 15 ans, je me bats dans les journaux. D'abord, j'ai dû y gagner mon pain, très durement. Je crois bien que j'ai mis les mains à toutes les besognes, depuis les faits divers jusqu'au courrier des chambres. Plus tard, lorsque j'aurai pu vivre de mes livres, je suis restée dans la bagarre, retenue par la passion de la lutte. Je me sentais seule. Je ne voyais aucun critique qui accepta ma cause, et j'étais décidée à me défendre moi-même tant que je demeurerais sur la brèche. La victoire me semblait certaine. Les assauts les plus furieux me fouettaient et me donnaient du courage. À cette heure, j'ignore encore si ma tactique avait du bon, mais j'y ai au moins gagné de bien connaître la presse. Mes aînés, des écrivains illustres, l'ont souvent foudroyé devant moi sous de terribles accusations. Elle tuait la littérature, elle traînait la langue dans tous les ruisseaux. Elle était l'agent démocratique de la bêtise universelle, j'en passe, et des plus féroces. J'écoutais. Je songeais que, pour en parler avec cette rancune, il ne la connaissait pas. Non, certes qu'elle fut absolument innocente de tout ce qu'il lui reprochait, mais parce qu'elle a des côtés puissants et qu'elle offre des compensations très larges. Il faut avoir longtemps souffert et usé du journalisme pour le comprendre et l'aimer. À tout jeune écrivain qui me consultera, je dirai « Jetez-vous dans la presse à corps perdu, comme on se jette à l'eau pour apprendre à nager. » C'est la seule école virile à cette heure, C'est là qu'on se frotte aux hommes et qu'on se bronze. C'est encore là, au point de vue spécial du métier, qu'on peut forger son style sur la terrible enclume de l'article au jour le jour. Je sais bien qu'on accuse le journalisme de vider les gens, de les détourner des études sérieuses, des ambitions littéraires plus hautes. Certes, il vide les gens qui n'ont rien dans le ventre, il retient les paresseux et les fruits secs dont l'ambition se contente aisément. Mais qu'importe, je ne parle pas pour les médiocres. Cela reste dans la vase de la presse, comme il serait resté dans la vase du commerce ou du notariat. Je parle pour les forts, pour ceux qui travaillent et qui veulent. Qu'ils entrent sans peur dans les journaux. Ils en reviendront comme nos soldats reviennent d'une campagne, aguerris, couverts de blessures, maîtres de leur métier et des hommes. Les meilleurs d'entre nous, aujourd'hui, n'ont-ils point passé par cette épreuve ? Nous sommes tous les enfants de la presse. Nous y avons tous conquis nos premiers grades. C'est elle qui a rompu notre style et qui nous a donné la plupart de nos documents. Il faut simplement avoir les reins assez solides pour se servir d'elle au lieu qu'elle ne se serve de vous. Elle doit porter son homme. Ce sont là d'ailleurs des leçons pratiques que les plus énergiques paient très cher. Je parle pour moi, qui l'ai souvent maudite, tellement ses blessures sont cuisantes. Que de fois je me suis surpris à reprendre contre elle les accusations de mes aînés. Le métier de journalisme était le dernier des métiers. Il aurait mieux valu ramasser la boue des chemins, casser des pierres, se donner à des besognes grossières et infâmes. Et ces plaintes sont ainsi revenues chaque fois qu'un écœurement m'a serré à la gorge devant quelque ordure brusquement découverte. Dans la presse, il arrive qu'on tombe de la sorte sur des mares d'imbécilité et de mauvaise foi. C'est le côté vilain et inévitable. On y est sali, mordu, dévoré, sans qu'on puisse établir au juste s'il faut s'en prendre à la bêtise ou à la méchanceté des gens. La justice, ces jours-là, vous semble morte à jamais. On rêve de s'exiler au fond d'un cabinet de travail bien clos, où n'entrera aucun bruit du dehors et dans lequel on écrira en paix, loin des hommes, des œuvres, des intéressés. Mais la colère et le dégoût s'en vont. La presse reste toute puissante. On revient à elle, comme à de vieilles amours. Elle est la vie, l'action, ce qui grise et ce qui triomphe. Quand on la quitte, on ne peut jurer que ce sera pour toujours, car elle est une force dont on garde le besoin du jour où l'on en a mesuré l'étendue. Elle a beau vous avoir traîné sur une claie, elle a beau être stupide et mensongère, souvent, elle n'en demeure pas moins un des outils les plus laborieux, les plus efficaces du siècle. Et quiconque s'est mis courageusement à la besogne de ce temps, loin de lui garder rancune, retourne, lui demander des armes à chaque nécessité de bataille.
On lit dans les journaux, les bandits sont dans la cité, mais jamais dans les journaux on ne parle des gens bien sages qui font du bien sans publicité. On lit dans les journaux, il l'aimait trop, il l'a tué, mais jamais dans les journaux on ne parle des bons ménages qui s'aiment bien sans se tuer. Allons, allons, messieurs les journalistes, pourquoi faut-il que vous soyez si tristes? N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui sait regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder? N'y a-t-il pas du soleil sur chaque maison pour qui sait regarder et toujours une raison de sourire et d'aimer? Ne me dites pas non! On lit dans les journaux, mort affreuse d'un assassin. Mais jamais dans les journaux on ne lit dans telle pouponnière 30 nouveau-nés se portent bien. On lit dans les journaux Monsieur Mattel est invendu. Mais jamais dans les journaux on ne parle des gens honnêtes. On pourrait croire qu'il n'y en a plus. Allons, allons, messieurs, soyons sincères. Il ne faut pas non plus qu'on exagère. N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui sait regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder? On devrait faire, je propose, des journaux dans un genre inédit où l'on dirait que les choses, les belles choses qui font aimer la vie, les bonnes nouvelles, les gens de cœur, messieurs les journalistes, apprenez-nous